Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace d'expression et de commentaires sur l'actualité. J'espère que vous allez bien, c'est la fin de la semaine et comme chaque vendredi dans le JDA, c'est bien sûr la libre antenne. C'est vous qui faites le sommaire aujourd'hui, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Un petit coup d'œil du côté du standard, dans l'ordre, nous parlerons de la République démocratique du Congo et de la campagne électorale et du processus électoral. Ensuite, nous reviendrons peut-être, sûrement, oui, avec Guy sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et enfin, nous consacrerons également la dernière partie de l'émission à cette audience fondamentale qui se déroule à la CPI pour la demande de libération provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Le numéro pour intervenir, c'est le 01 55 07 58 00. Mais si vous avez du mal à nous joindre, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Facebook, facebook.com/journal. Des auditeurs, avant de vous écouter en direct, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, bonsoir. Bonjour, madame Stéphanie. Vous rappelez-vous, il y a quelques semaines, dans le JDA, je vous avais demandé si les gilets jaunes français allaient-ils faire des émules en Europe, en Afrique et dans le monde. Actuellement, les faits m'ont donné raison. Non seulement qu'il y a des gilets jaunes en France, mais il y en a en Belgique, en Allemagne, en Serbie, en Bulgarie. Mais eux, ils sont pas en jaune, ils sont en bleu noir. En Afrique, les autorités égyptiennes ont interdit qu'on vende des gilets à des particuliers. Je vous remercie.
Bonjour, bonjour chers amis auditeurs d'Africa numéro 1. Bonjour Madame Hartmann. Je voudrais m'adresser aux partisans de Soro Kibafori Guillaume en Côte d'Ivoire. Chers amis, arrêtez de blaguer Soro parce que Soro n'a jamais dit à quelqu'un qu'il sera candidat en 2020. Soro, jusqu'à preuve du contraire, il reste le président de l'Assemblée nationale. Donc, si Soro décide de ne plus être un membre du RDR, il sait la voie qu'il doit emprunter. Vous qui êtes là en train de vous surchauffer sur les réseaux sociaux pour parler, non, Soro n'a jamais dit qu'il va divorcer avec sa famille RHDP. Donc arrêtez de blaguer et arrêtez de créer les problèmes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de sens. Je vous remercie.
Et bonjour, chers frères africains, bonjour, chers frères ivoiriens. Je viens d'écouter le message d'un confrère ivoirien tout à l'heure par rapport au discours de l'ivoirité qui gangrène son pays. Ça m'a tellement touché que c'est pour ça que j'appelle et pour dire que vraiment ce pays que j'ai connu, ce pays où j'ai vécu, je suis même né là-bas, je crois bel et bien que ce pays ne va jamais connaître la paix. Jamais. Parce que ils n'ont jamais connu la guerre. C'est pour ça, à chaque fois, ils vont toujours chercher le feu. Ils n'ont qu'à demander aux Libériens, ils n'ont qu'à demander aux Sierra Leonais qui ont vraiment fait la guerre. Aujourd'hui, ils ne parlent même pas de guerre. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, essayez de vous ressaisir. Voilà mon message. Et frère, j'ai appelé pour vraiment te réconforter parce que j'ai écouté ton message. C'était mille fois la vérité. Merci beaucoup. Bonne journée.
Allô, bonjour. Je vous appelle concernant sur un auditeur d'hier, Michel, qui disent que les Maliens, c'est des sauvages parce qu'ils ont parlé qu'il ne faut pas casser, il faut casser les policiers des forces de l'ordre. Donc les policiers sont là pour nous, pour notre sécurité. Donc c'est pas bon de casser les. On peut manifester pacifiquement, mais lui dit qu'il vient de RDC, je ne sais pas quoi là. Et ils sont plus civilisés que nous. Chez eux là, ils violent les femmes. Le médecin qui a eu le prix Nobel de la paix, c'est RDC, au Mali. Il parle de Tombouctou. À Tombouctou, c'est des terroristes. Donc c'est pas bon de casser les forces de l'ordre, parce qu'ils sont là pour nous tous. Ils viennent parler n'importe quoi à la Radio Africaine Moyenne, parce que la Radio Africaine Moyenne, Il faut les respecter, il faut respecter les auditeurs. Merci, Madame Stéphanie. Au revoir. Ciao.
Oui, bonjour, Jidia. Bonjour, Africa numéro 1. C'est M. Daoudaou de Paris. Au fait, c'était concernant l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Bon, il paraît que le Cameroun ne pourra pas organiser, donc ils vont arracher la CAN en 2021 pour Cameroun, pour donner au Cameroun. Mais par contre, il faut arriver en Côte d'Ivoire pour voir le boulot qui se passe actuellement. La Côte d'Ivoire a mis le paquet, même le stade qui est en construction. Moi, j'ai été là-bas le mois passé, je suis allé voir, mais vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Mais s'il faut qu'on va nous arracher ça en 2021, vraiment, moi, ça me touche au cœur, franchement dit. Donc, il faut qu'on revoie ça, quoi, puisque c'est eux-mêmes qui envoient des trucs entre nous les frères. Vraiment, vraiment, c'est dit. Je vous remercie, au revoir.
Oui, Africa numéro 1, bonjour, c'est Jean-Louis Benga. Je vous appelle par rapport à l'incendie qui est passé à Kinshasa, le dépôt de la CENI, commission électorale indépendante, je crois, de Mekoui, hein, voilà. Bah, écoute, moi, je pense que le pompier, le pyromane dans cette histoire-là, c'est Joseph Kabila, celui qui a envoyé ses barbouzes, pour incendier les matériels à Kinshasa, de façon qu'on puisse reporter les élections et qu'il puisse rester. Alors, moi, je voudrais dire ceci à Monsieur Joseph Kabila, qu'il arrête cette connerie. Je dis bien qu'il arrête cette connerie, parce que, qu'il veuille ou pas, le 23 décembre, s'il n'y a pas d'élection, il partira par la force. Et je pense que nous l'avons toujours dit, il est question avec ces messieurs d'utiliser tous les moyens de coercition, de le chasser par la force.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. On commence sans plus tarder cette libre antenne avec la République démocratique du Congo à 9 jours des élections en RDC. Près de 8000 machines à voter ont été brûlées dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans un entrepôt de la CENI à Kinshasa. Mais la CENI se veut rassurante. Le processus électoral se poursuit bel et bien. Alors, qu'en pensez-vous ? On va en parler tout de suite avec Paul. Paul, bonjour. Oh là là, je m'entends même. C'est magnifique, oui. Paul. Pouvez-vous couper votre radio, s'il vous plaît ?
C'est magnifique, oui. Paul. Pouvez-vous couper votre radio ?
Oui, allô, bonjour, Madame Stéphanie, et bonjour tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour, Paul.
Oui, si je me permets d'appeler, c'est par rapport aux événements qui se passent dans mon pays, la République démocratique du Congo. Commençons par le théâtre orchestré par la Kabylie, parce que je l'ai toujours insisté que M. Kabila et ses acolytes n'ont jamais eu l'idée d'organiser des élections. Et nous voilà à quelques semaines des élections, le théâtre qu'ils nous organisent.
À quelques jours même, hein, puisque le premier tour c'est le 23 décembre.
Des élections, 9 jours. Il y a un théâtre, on brûle tout pour dire que c'est la Mouka ou je ne sais pas qui sont derrière tout ça, mais non. Nous le savons très bien.
Donc, une coalition d'opposition.
Oui. Et malheureusement, c'est que moi, Congolais, je me pose des questions. Comment est-ce que l'opposition congolaise peut être si médiocre? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition a oublié le cible qui est Hippolyte Kanembe alias Kabila. Et maintenant, tous les deux coalitions commencent à s'affronter entre eux, oubliant le dauphin de M. Kabila, qui se prépare à conséquence. Parce que je veux vous informer que M. Kabila a fait venir des armes, a fait venir des milices, afin que le 24 décembre, le 23 décembre, le jour des élections...
On n'a pas ces informations, cher Paul. Hein.
Je vous informe que le 23 décembre, il va y avoir un chaos au Congo qui sera organisé par la Kabylie. C'est pour ça que j'appelle à la vigilance citoyenne de tout Congolais, de l'étranger comme de Kinshasa. Nous avons assez de voir M. Kabila, parce que M. Kabila, avec sa gérance du pays, il a détruit le peuple congolais. L'éducation, la santé, tout, sur tous les plans, le peuple congolais est meurtri. C'est pour cela que je profite aussi de votre chaîne pour encourager le docteur Denis Mukwege par son démarche, par son son patriotisme. C'est un monsieur qui défend le peuple congolais pour de vrai, non pas pour des intérêts.
C'est très clair. On va en parler dans quelques instants avec Guy, d'ailleurs, qui voulait rendre hommage au docteur Mukwege. Merci, Paul, d'avoir ouvert cette libre antenne sur la RDC. Paul qui lance un appel à la vigilance. Et Paul qui souligne aussi que les deux coalitions d'opposition sont plutôt occupées à s'invectiver elles-mêmes plutôt que de s'occuper du dauphin de la majorité. Emmanuel Ramazani, merci beaucoup, Paul. Alors, je vous préviens, messieurs, on va faire les petits passages d'antenne entre 2 et 3 minutes. Comme ça, on va pouvoir parler d'un maximum de sujets possibles. On continue de parler de la RDC avec Jean-François. Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, Jean-François. Alors, concernant cet incendie, rapidement, du côté de la majorité, oui, oui. On a accusé l'opposition et notamment Martin Fayoulou qui aurait appelé à la destruction. Mais pour vous, vous n'y croyez pas.
Mais on ne peut pas croire, madame. C'est visible. C'est le pouvoir en place qui a orchestré cet incendie. Vous savez, les dépôts, là, se trouvent sur l'avenue au commandement. C'est-à-dire, c'est une avenue où, à 200 ou 300 mètres, il y a les camps militaires de camps militaires. Mm. Et à côté, il y a le bureau de d'incendie. À moins de 100 mètres, il y a la voie du Zaïre à côté. Mais c'était un endroit où il y a beaucoup plus de sécurité. Mm. Comment ça fait-il que l'opposition, qui ont même des problèmes dans ce pays pour pouvoir mouvoir facilement, ils sont dans l'insécurité totale et cette opposition puisse venir mettre du feu dans cet endroit-là? Non, c'est pas possible. C'est la Kabylie qui est en train d'orchestrer tout ça. C'est la Kabylie qui est le pompier pyromane de cette situation. Qu'on le veuille ou pas, tout est clair. Et ils voulaient jamais organiser les élections. Et vous savez, dans moins de 2 semaines des élections, il y a 80% des machines qui sont là et qui ont été incendiées. Mais à quel moment ils devaient évacuer ces machines pour les envoyer là? Il fallait qu'ils y aillent.
C'est très clair. Voilà.
Ça prouve effectivement que c'est Kabila avec ses acolytes qui le font d'une manière sciemment. Mmh. Et ils accusent l'opposition. L'opposition n'a rien à voir.
Est-ce que vous craignez un report du scrutin, Jean-François?
Mais oui, mais c'est le but voulu par la Kabylie. Kabylie voulait à tout prix mettre le pays dans le chaos pour signifier et pour justifier le report des élections.
C'est très clair, Jean-François qui voit finalement dans cet incendie, le disait Paul, une manœuvre peut-être du pouvoir pour repousser ce scrutin du 23 décembre. C'est dans 9 jours. Merci, Jean-François. Je demande à Ibrahim de patienter encore un petit peu. On va le prendre. Ibrahim nous parlera rapidement du Burkina Faso. Gilbert sur la RDC. Bonjour, Gilbert.
Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Je pleure, Stéphanie, je pleure. Les Congos, je ne sais pas si les Congolais sont des hommes. Je ne sais pas si le peuple congolais est éveillé. Moi, dans tout ce que Kabila fait, je m'en fous. Kabila n'est rien. Mais le peuple congolais, au moment où je vous parle, il y a des gens qui courent derrière Kabila, le peuple qui soutient Kabila. Mais Stéphanie, regardez, 18 ans que Kabila est au pouvoir, quel est le devenir du Congo? Regardez Kinshasa. Kinshasa est un village. Kinshasa est très sale. Mais il y a des Congolais aujourd'hui.
Un grand village, Kinshasa.
Un grand village. Mais il y a des Congolais aujourd'hui qui sont prêts à voter Chagari. Mais
vous comprenez pas ça.
Je ne comprends pas. Ne comprends pas. Il faut être vraiment idiot ou bien je ne sais comment pour soutenir Kabila. Kabila est au pouvoir pendant 18 ans. Mais je ne parle même pas de Mbujimayi ou bien de Lubumbashi ou bien de Kananga. Je parle de Kinshasa. Kinshasa n'est pas une ville. Kinshasa est sale. Il n'y a rien à Kinshasa. Mais il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils vont voter Kabila. Mais ils sont des malades. Nous avons chanté 32 ans pour Mobutu. Mobutu nous a laissés dans cet état-là. Ils n'ont même pas suivi l'exemple de Mobutu pour voir ce que Mobutu a fait. Aujourd'hui, ils continuent à soutenir Kabila qui a détruit plus que Mobutu. Vraiment, je me demande, les Congolais, peuple congolais, c'est pourquoi je donne raison à ce fameux combattant qu'il y a en Belgique, Bokechou, qui disent peuple andengenin, yo, peuple andengenin. Franchement.
Évitez pas les Lingala, tout le monde ne comprend pas, mon cher Gilbert. Hein.
Franchement, c'est pour dire aux Congolais qu'ils comprennent ce que je vais dire. Cette émission, je sais que c'est pour toute l'Afrique, mais les Congolais doivent ouvrir les yeux, savoir qu'ils sont en train de se tuer eux-mêmes, les Congolais. Les Congolais sont des peuples amorphes.
Merci. Oui, Gilbert, merci.
Merci.
Merci à vous, Gilbert. Gilbert qui était en colère hein, contre ceux qui soutiennent hein, la majorité présidentielle en RDC. On ferme ce volet RD Congo parce qu'il y a on aura l'occasion hein, sûrement d'en reparler la semaine prochaine. Voilà, sur cette antenne et dans le journal des auditeurs. Bien sûr, on ferme ce dossier RDC avec Guy. Guy, bonjour. Vous vouliez rendre hommage d'abord au docteur Mukwege.
Merci. Bonjour Stéphanie. Bonjour aux auditeurs Africa numéro 1. Alors, je voulais d'abord rendre hommage au docteur Denis Mukwege parce que j'ai écouté et regardé le discours qu'il a fait. Et franchement, au-delà de l'émotion, je rends hommage à ce monsieur parce que à aucun moment il n'a parlé, il n'a dit je, mais il a parlé au nom de l'humanité.
Et vraiment... Il a dit aussi un truc important, Guy, que je me permets de souligner, excusez-moi, je vous interromps, c'est aussi quand vous achetez une voiture électrique, quand vous regardez vos téléphones portables, pensez à comment les matériaux à l'intérieur ont été ramassés. Voilà, on pense beaucoup à la situation des mines en RDC, ça c'est important et on n'y pense pas assez quand on utilise nos téléphones.
Merci, Madame Hartmann, parce que vous savez ce que vous venez de dire. Quand il a dit ça, j'ai regardé tout ce personnel qui était assis là. Il a parlé à tout le monde, parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans son pays, mais personne ne bouge. Donc il a envoyé tout le monde au-devant de ses propres responsabilités devant son miroir. Au-delà de ce discours émotionnel, ça a été un discours de courage, de dénoncer et de dire les choses. Et Africains, vraiment, je nous exhorte. Nous devons nous lever. Ça parle au monde entier, mais ça nous parle à nous d'abord. Pour qu'une personne vienne respecter, qui entre chez toi, te respecte, il faille qu'il voit que devant ta maison, tu balais, tu nettoies. Sinon, il ne respectera pas ton intérieur. Et vraiment, je veux lui rendre hommage parce que vraiment, nous devons faire de sorte de soutenir ce monsieur et d'autres personnes encore qui œuvrent vraiment pour que l'humanité se lève et que l'humanité avance. Parce qu'il a parlé au Sahara. Au Sahara du Congo, mais il a parlé au nom de toutes les Sahara du monde entier, qui portent la vie, et c'est important. Et je voulais...
Alors le deuxième sujet, on va passer au deuxième sujet s'il vous plaît, mon cher Guy, vous vouliez revenir sur la CAN.
En fait, ouais. C'était la CAN, c'est pour dire que, encore une fois, on voit M. Kabila, il pourrait bien organiser la CAN, parce que c'était un joueur de foot vraiment exceptionnel dans le sens du terme, parce que j'ai cru comprendre au début de semaine que ce monsieur... prévoyait peut-être en 2023 de se présenter. Il me fait penser à ce joueur de foot qui fait des passements de jambes qu'on appelle des Nilsson, qui ne fait rien, mais qui fait du vent. Et je pourrais même dire qu'on peut l'appeler le fils de Poutine, donc je l'appelais Caputino. Voilà.
Ça y est.
Il copie exactement et il ne fait rien de bon.
Et donc
concernant.
On a bien compris, mon cher Guy, que vous proposiez éventuellement que la CAN se tienne en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Guy, hein, de cette participation à cette libre antenne. Alors, il n'y a pas d'autre CAN au standard, je pense, non ? Donc, on va dans quelques instants parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, on va écouter Ibrahim qui voulait revenir sur un triste anniversaire, celui de l'assassinat de Norbert Zongo. Je pense que c'était le 13 décembre, non ? Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs. Pour commencer, je vous remercie hein, de m'avoir donné souvent la parole pour que je parle de ces petits pays au grand cœur, Burkina Faso.
Un grand pays, là, le Burkina.
Voilà. Voilà, c'est votre confrère, hein, Norbert Zongo, qui a été lâchement assassiné, mais de façon cynique. C'était le 13 décembre 1998. Je souhaiterais revenir là-dessus pour qu'on n'oublie pas. Parce que ce monsieur-là, il a fait vraiment un grand travail. C'est grâce à lui que nous jouissons aujourd'hui de la liberté de la presse aujourd'hui au Burkina Faso. Il s'est sacrifié pour que nous, on vive mieux, bien avant même la chute de Blaise Compaoré. Voilà. Je voulais aussi rappeler...
Et la France a livré un premier carton d'archives. Alors non, l'archive c'est pour les assassinats de Thomas Sankara. La justice française a donné un premier accord concernant l'extradition de François Compaoré, hein, l'un des principaux principale accusée dans cet assassinat de Norbert Zongo. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous?
Une très très bonne nouvelle. On est très très content. Le peuple martyr qui nous avons souffert vraiment de la mort de Norbert Zongo. Nous avons souffert, il n'y a pas que Norbert, parce que quand on parle de Norbert, il faut rappeler quand même qu'il y a deux personnes qui ont été assassinées en même temps avec lui. Ces gens-là, ils sont anonymes, mais quand même, ce sont des âmes, quoi. Et après ça, il y a beaucoup de gens quand même qui ont été torturés, qui ont subi, même moi personnellement. Je faisais partie de noyaux durs le soir du 13 décembre, le dimanche. Je me rappelle au campus de l'université de Ouagadougou, on s'est réunis comme ça pour dire, mais attendez, ils ont dit que le monsieur, il est mort par accident, et on va faire quoi? Il faut faire quelque chose. Nous sommes les résidents, nous avons décidé que le lendemain, nous allons prendre en otage le boulevard Général de Gaulle, et c'est comme ça que les associations, les mouvements des partis politiques se sont joints à nous. Mmh. Et ça a donné une grande mouvance qu'on a appelée le collectif des partis politiques et des organisations des masses contre l'impunité. Mmh. Voilà comment on a mené le combat pour amener le régime Blaise Compaoré à accepter finalement qu'il y ait une enquête indépendante, qu'il y ait des collèges de sages, et qui a donné ce résultat mitigé, bien sûr, mais quand même, on ne s'est pas laissé faire. Je peux dire que c'est une suite logique aussi qui a donné la création des balais citoyens, qui a donné un assaut final au régime de Blaise Compaoré.
Bon,
pour résumer tout ça, je voulais juste rappeler que Blaise Compaoré a assassiné l'espoir de Burkinabé deux fois. La première fois...
Alors rapidement, Ibrahim, parce que j'ai le dossier ivoirien derrière et il ne reste moins de 10 minutes.
L'intégrité, quand on dit le Burkina Faso pays des hommes intègres, cette intégrité a été caractérisée par Thomas Sankara d'abord, la tenue militaire et l'arme. Et après, on a un civil qui l'a caractérisé, le journaliste avec sa plume. C'est sur ce, je vais terminer et je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs.
Et merci à vous, Ibrahim, d'avoir rappelé et réanimé voilà ce souvenir de Norbert Zongo au Burkina Faso. Merci beaucoup, Ibrahim. Alors, décision très attendue aujourd'hui, vendredi 14 décembre. La CPI hein, doit décider de la mise en liberté provisoire ou non de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé. On en parle tout de suite avec vous. Alors, dans l'ordre d'arrivée, je demande à Simon de patienter. On finira avec le Togo, normalement. Cheikh, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Stéphanie Hartmann.
Bonjour, Cheikh. Vous vous dites...
tous les auditeurs...
Allez-y.
Et les auditrices de la JDA.
Oui.
Alors, ce que moi je voulais dire concernant le procès à la Haye de Laurent Gbagbo et du général Charles Blégoudé, comme on l'appelle, je pense que...
Général de la Rue.
Présent, la CPI n'a pas encore fait le travail qu'elle doit faire. Parce que si aujourd'hui on aspire à avoir une paix en Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit avoir une équitabilité au niveau de la justice.
Mm.
Jusqu'en présent, il n'y a pas d'équitabilité au niveau de la justice.
Est-ce que ça justifie une mise en liberté, mon cher Cheikh? Dites-nous, allons droit au but. Hein. Vous savez, vous êtes nombreux à vouloir en parler. Il reste 5 minutes.
La liberté de Laurent Gbagbo, que Gbagbo soit libre ou pas, cela ne garantit pas la paix en Côte d'Ivoire. Mm. Bon. Je pense que s'il y a une guerre, il y a eu deux camps qui s'est opposés. Jusqu'en présent, on assiste à une justice d'impartialité. Mmh. Aujourd'hui, vous vous imaginez si Laurent Gbagbo est libre et que demain il est au pouvoir, on va assister au même justice d'impartialité. Et cela ne va jamais finir jusqu'à ce que on arrive demain à une guerre civile.
Vous craignez la vengeance, Cheikh.
La CPI doit se pencher plutôt sur la justice, une justice équitable au lieu de se pencher sur la libération de quoi que ce soit. Est-ce que vous
c'est
voyez
clair. Merci, Cheikh.
Qui que ce soit, mais Gbagbo, il peut être coupable comme n'est
pas. Disons que c'est la CPI, c'est pas la CPI qui a fait la demande de liberté provisoire, hein, c'est bien sûr les avocats de Laurent Gbagbo eux-mêmes. Cheikh nous dit, nous, moi, j'aimerais plutôt voir le procès de l'autre camp également à la CPI. Voilà ce que nous dit Cheikh pour ce débat. Merci Cheikh. Canal Amboni, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie. Excusez-moi, je suis un peu rhumé. Si ça grisouille, c'est que c'est mon rhume. Alors, je rebondis rapidement sur ce que vient de dire Cheikh. J'ai longtemps eu espoir que la justice soit équitable, mais aujourd'hui, vu comment cela se passe, on pense plutôt à un complot qui répond à un agenda des multinationales françaises qui sont en France et en Côte d'Ivoire en train d'exploiter les ressources. Et tant que la libération de Gbagbo et de Blé Goudé va menacer cet équilibre agenda mafieux, on ne le libérera pas.
Vous pensez que les multinationales françaises, bon, on va dire les grands groupes qui sont à Abidjan n'ont pas intérêt à ce que le président Gbagbo revienne au pouvoir? C'est plutôt ça, finalement.
Mais surtout que vous dites.
Parce que s'il est libéré, je vois pas comment il pourrait gêner les multinationales s'il n'était pas de fonction.
Non, mais surtout que le camp de Ouattara ne sait pas encore qui il présente. Donc, il ne sait pas encore qui. Surtout que Soro veut être candidat.
Donc, pour vous, il ne sera pas libéré au regard de la perspective de 2020, c'est bien ça?
Ah non, pas du tout.
C'est très clair.
Pas pour le moment, en tout cas.
Merci beaucoup, Kana. Je vous presse, toutes mes excuses, mais vous voyez, j'ai le chronomètre et c'est un sujet important. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer. Dans l'ordre d'arrivée, il y a Claudel pour terminer. Oui, et ensuite Loceni. Claudel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Claudel. Alors, cette décision, elle est attendue. Qu'espérez-vous aujourd'hui?
Bon, moi, j'espère simplement que justice va être faite. Il va bénéficier d'une liberté provisoire. Et puis, bon, le procès va continuer pour aller.
Faites bien de préciser ça. Oui.
J'appelais pour m'insurger contre les propos tenus hier par la représentante des victimes qui disait comme ça que libérer Gbagbo, il y a une élection qui se profile en 2020, donc ça allait poser des problèmes. Voyez-vous comment tout de suite on va vers tout ce qui est politique, alors que là nous sommes dans on dénonçait depuis là que c'était un procès politique. À quoi la liberté de Gbagbo peut gêner le processus de 2020? Voyez-vous, c'est la représentante des victimes.
Il reste président du FPI, hein, disait le procureur McDonald.
McDonald, lui encore, il est pire parce que il dit que Laurent Gbagbo il doit rester en prison parce qu'il est populaire. Vous voyez, ces propos tenus par des magistrats, c'est extraordinaire, devant tout le monde entier. Donc, moi, je pense que pour une bonne justice, Laurent Gbagbo, ça fait 7 ans qu'il est en prison pour quelqu'un qui est présumé innocent. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une logique qui devait rendre service, sinon faire en sorte que les Ivoiriens retrouvent la vie.
Pour vous, ce serait un bon geste pour la réconciliation, Claudel, c'est bien ça. Hein.
Oui, bien sûr.
Merci, Claudel, qui dit souligner finalement, c'est les juges eux-mêmes qui politisent le procès. Et en tout cas, voilà, cette audience de demande de libération provisoire. Loceni. Pardon. Loceni, coupez votre radio, s'il vous plaît. Alors voilà, Claudel disait finalement, la libération de Laurent Gbagbo serait. Un grand geste pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Loceni, bonjour, vous êtes d'accord avec cela, hein?
Oui, madame, d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à partir de votre antenne. Je dis bonjour à nos auditeurs. Oui, madame, effectivement, la libération, une éventuelle libération provisoire du président Laurent Gbagbo, en tout cas, nous, en Côte d'Ivoire, on applaudirait cela parce que ça fait pratiquement 7 ans qu'il est incarcéré à la Cour pénale internationale, mais la réconciliation piétine. La réconciliation piétine, mais je m'indigne en même temps des propos qui sont tenus par les uns et les autres, comme quoi, si Laurent Gbagbo venait à être libéré, oui, Alassane Ouattara ne peut pas continuer le mandat en 2020, il est populaire, mais madame, on ne peut pas maintenir un individu en prison. Priver un individu de sa liberté pour un intérêt politique, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, il y a eu des victimes en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts, on fait le deuil de nos morts, et puis on va à la réconciliation. C'est ce que moi, je... En tout cas, le plus important pour moi, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagnerait? Ce que la Côte d'Ivoire gagnerait, c'est la cohésion sociale, c'est la réconciliation nationale. Parce que j'ai foi, moi, aujourd'hui, que Laurent Gbagbo, après 7 ans, d'incarcération, ne viendra pas venir faire de n'importe quoi encore en Côte d'Ivoire. Il viendra plutôt apaiser le cœur de ses partisans.
De toute façon, il semblerait que durant l'audience, on évoquait plutôt des pays d'accueil, hein, notamment le Pays-Bas. Il y a peu de chances que si Laurent Gbagbo soit libéré, qu'il puisse, en tout cas durant sa liberté provisoire, aller en Côte d'Ivoire. Je suis désolée, on n'aura pas le temps de prendre Jules. Je demande à Sanogo de patienter un petit peu. Et encore, c'est pas sûr. On va juste terminer avec Simon qui voulait revenir sur le Togo. Simon s'était inscrit vite fait hier à l'antenne. Bonjour Simon.
Bonjour, maman Stéphanie. Merci de m'avoir donné la parole.
Bonjour Simon, merci de votre patience.
Merci bien. Et voilà, et ce que je voudrais dire, dénoncer ici sur votre antenne, et c'est que j'ai entendu des circulaires ou bien sur les réseaux sociaux comme quoi que les élections qui aura lieu au Togo, soi-disant, et les parlementaires français et complices du régime qui s'en vont pour aller superviser cette élection, je lance un appel à eux de ne pas se déplacer parce que les Togolais sont très très gentils jusqu'à maintenant avec les Français. Il faut qu'ils arrêtent, il faut pas qu'ils continuent parce que on va se venger. Donc qu'ils arrêtent. Et de deux, je lance un appel à tout Togolais, tout le monde qui est Togolais, de ne plus compter sur la CEDEAO, de ne plus compter sur aucune organisation internationale pour que c'est eux qui vont venir les sauver. Non. Faisons ce qu'on a à faire pour libérer notre pays.
C'est très clair. Alors par contre, Simon, voilà. Merci beaucoup. Simon, on arrive à la fin de cette émission. Contrairement à ce que vous avez dit, hein, l'ambassade de France précise que le gouvernement français n'organise aucune mission d'observation des élections législatives au Togo. Il faut toujours se méfier de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Merci à tous de votre participation. C'est la fin de cette émission. Je m'excuse auprès de Biaksouba qui nous écoute de côté de N'Djamena, qui voulait nous alerter sur la situation des étudiants tchadiens privés de bourse, privés de moyens d'étudier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir sur cette antenne. N'hésitez pas sinon à continuer le débat sur justement les réseaux sociaux, facebook.com/journaldesauditeurs. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du JDA. Il y a de grandes chances que nous parlions du cas Gbagbo. Inscrivez-vous si vous voulez participer. 01 55 07 58 05. Excellent week-end à l'écoute d'Africa numéro 1, la radio africaine.